Et ce matin, on continue l'évangile de Marc, Marc 10, 13 à 31. Un texte qu'on connaît. Alors j'ai donné pour titre ce matin à ce que j'aimerais voir avec vous, tout laisser pour tout gagner. Tout laisser pour tout gagner. Alors je sais pas, je vais vous mettre un portrait, je ne sais pas si vous reconnaissez cet homme, il s'appelle Léon Marchand. Un nageur qui a aujourd'hui 21 ans, il va sur ses 22 ans. Alors ne vous laissez pas avoir par sa petite bouille toute sage. C'est un vrai tueur dans le bassin. Un surdoué, un des plus grands nageurs probablement de l'histoire. Et il est français. Spécialiste, enfin on pourrait même dire un prodige des épreuves quatre nages, de brasse, de papillon, notamment du 400 mètres et du 200 mètres. Alors en septembre 2020, il avait déjà des résultats assez impressionnants, il n'était pas très connu du public, mais il a décidé de quitter le cocon familial. Il a décidé de quitter la France, de quitter sa famille, de quitter son club de natation qu'il connaissait depuis tout petit à Toulouse pour s'entraîner dans une université en Arizona avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde qui a entraîné une star passée. Aujourd'hui, il nage plus de 6 heures par jour, 6 jours sur 7. Il a tout quitté pour tout gagner. Mon titre irait très bien avec son histoire. Parce que depuis qu'il se prépare, ça fait seulement 2 ans et demi, il bat en effet record sur record. Déjà 5 fois champion du monde. Une des valeurs sûres des Jeux Olympiques de cet été. Si vous voulez suivre quelqu'un, je pense que vous pouvez le suivre. Un nageur exceptionnel. Et selon les critères de ce monde, ce garçon, ce jeune garçon, Léon, est en train de bien gagner sa vie. En plus, il a le sourire, hein, il a une bouille plutôt mignonne. Il est reconnu aussi pour avoir un comportement exemplaire. Il est travailleur, il est sérieux, il a de tas de copains, il se prend pas la grosse tête. Il a réussi son bac en même temps qu'il faisait sa natation avec mention très bien. Il réussit dans ses études universitaires. Il passe aussi son brevet de pilote. Il touche à tout, il est discret, il est joyeux à la fois, il aime faire des blagues, il est vraiment de bonne humeur. Il a tout laissé pour tout gagner. Un gars qui est chouette, qui gagne sa vie. Alors qu'est-ce qui démontre dans notre vie que notre vie est réussie et qu'elle est appelée à être réussie? Le succès dans un sport, dans le business, dans le travail, une réussite, une fierté de la famille, la réussite des enfants? Peut-être que votre succès se mesure aussi à votre travail qui est bien fait, à votre attitude de service. Vous êtes quelqu'un de serviable, quelqu'un de très bonne compagnie où il est agréable de vous avoir à table. Peut-être votre gentillesse. Mais, et comme on l'a vu dans ce texte, le problème avec tout cela, c'est pas la vie réussie auquel Jésus pense. Lorsqu'on regarde le texte de ce matin. Mais c'est plutôt quelqu'un qui va perdre sa vie. Parce que pour Jésus, la réussite, le succès, l'argent, n'égale pas la vie éternelle, la vie qui est devant nous. La vie éternelle n'est pas pour les gagnants de ce monde, c'est pour les perdants. En fait, on va trouver ça dans notre texte, que la vie éternelle est gagnée par ceux qui perdent tout. Alors voilà comment je résumerai le passage un peu de ce matin avec des histoires qu'on connaît. Le salut de l'homme ne dépend ni des réussites, ni de ses biens, mais d'une œuvre unique de grâce de Dieu rendue possible par Jésus-Christ. La vie éternelle est gagnée par ceux qui perdent tout. Alors on va voir d'abord dans ce texte qu'un que c'est les petits qui gagnent. Deuxièmement, les grands qui perdent. Et enfin, le Dieu qui rend l'impossible possible. Alors, vous l'avez remarqué hein, dans ce texte, les petits qui gagnent, les versets 13 à 16, ça commence au verset 13. Des gens lui amènent des enfants. Et là, tout de suite, on a les disciples qui s'interposent, qui critiquent ses parents qui viennent de ramener les enfants dans la présence de Jésus. Alors, ça tombe bien, hein, ce matin, on a les enfants avec nous. Les disciples, un peu, sont le cordon de sécurité autour de Jésus et ils réprimandent sévèrement les parents. Selon eux, Jésus a probablement d'autres choses importantes à faire que de prendre du temps avec les enfants, de les avoir autour de lui. Ces enfants interrompent peut-être inutilement son ministère. Et pourtant, je vous rappelle, la semaine dernière, je crois qu'on a lu ce texte où Jésus avait dit à ses disciples d'accueillir les enfants. Et que si on accueillait un enfant, c'était comme accueillir Jésus-Christ lui-même. Voilà, une fois de plus, les disciples, ils ont oublié ce que Jésus leur avait enseigné. Alors, enfants, c'est probablement, les spécialistes disent un peu que c'est sans doute des enfants d'en dessous de 6-7 ans. C'est vrai qu'à l'époque, les enfants, c'était pas les enfants rois comme aujourd'hui, mais c'était considéré comme des enfants peut-être, enfin des personnes de moindre importance, notamment pour deux raisons. Il fallait pas trop s'attacher parce qu'il y avait la mortalité infantile qui était élevée et n'avait pas de grande valeur sociale encore, même si dans le contexte juif, notamment, les enfants étaient une bénédiction de Dieu. Mais la vie d'un enfant, c'est manger, jouer, dormir. Ça s'arrête là, donc voilà. Donc ils étaient incapables pour les disciples de suivre un enseignement de Jésus, incapables de l'embêter pour cela. Mais on voit dans ce texte que c'est pas du tout la position de Jésus envers les enfants. Et Jésus va, au verset 16, les bénir, les prendre dans ses bras. Pour Jésus, la présence des enfants auprès de lui est importante. Ce matin, on doit aussi dire la présence des enfants est importante parmi nous dans l'Église et on est encouragé par tous ces enfants que nous avons dans l'Église. Regardez de nouveau avec moi versets 14 et 15. Jésus fut indigné quand il voit cette réaction de ses disciples. « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Jésus est vraiment mécontent de l'attitude de ses disciples. Et Jésus nous dit que pour entrer dans le royaume, entrer dans la vie éternelle, entrer dans la présence de Dieu, il faut accueillir Jésus comme un enfant. Les enfants, ces habituels délaissés, les perdants, les petits, sont ceux qui gagneront ce que le monde cherche à avoir. Alors Jésus fait cette déclaration, il n'y a pas d'autres précisions, il n'y a pas d'autres restrictions, il n'y a pas d'autres conditions. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler comme un enfant? Alors une des explications la plus courante, c'est que pour être un chrétien, pour accéder à cette vie éternelle, il faut avoir la foi d'un enfant. La foi simple, la foi qui fait confiance, la foi aveugle, qui ne cherche pas à réfléchir, à chercher la vérité, qui croit sans avoir besoin de preuves, sans se poser de questions trop difficiles, croire seulement. Mais est-ce que c'est ce que Jésus veut dire? De mettre nos raisonnements de côté. Est-ce que dans la foi, on doit mettre de côté nos raisonnements? Ben non, on voit quand on parcourt Marc, que Jésus ne nous demande pas de croire en lui sans essayer de comprendre. Il nous a laissé des enseignements, il nous a laissé sa parole, il nous a laissé des actes pour nous montrer comment il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Mes amis, dans la foi en Dieu, il y a la place pour mettre, entre guillemets, Dieu à l'épreuve. On peut mettre la résurrection de Christ à l'épreuve. On peut. Je sais que récemment j'ai dit si quelqu'un recherche Dieu, réfléchis, questionne Dieu. Je te donne la parole de Dieu. Elle va se démontrer à toi. C'est pas une foi aveugle. C'est une foi qui peut raisonner, une foi qui peut réfléchir. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire qu'on doit avoir une attitude qui ressemble à celle des enfants? Et je crois que c'est la suite du texte qui va affiner, qui va nous donner des clés pour mieux comprendre l'enseignement de Jésus. Alors je vous propose de passer à la suite de notre texte, les versets 15 à 27, et là on voit que c'est les grands qui perdent. Alors là on a la rencontre entre Jésus et Monsieur Réussite, Monsieur Riche, on aurait pu prendre Monsieur Léon. Mais on voit au verset 17 que cet homme il est en recherche, il se jette aux pieds de Jésus, Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour accéder auprès de Dieu? On voit que cet homme, il est respectueux, il est en recherche. On voit aussi que c'est un homme qui a une certaine morale. Il est exemplaire dans un comportement envers les autres. Il obéit depuis sa jeunesse. Moi, j'aurais dit la recrue parfaite pour l'équipe de Jésus, pour l'équipe des disciples. Mais on voit que Jésus voit réellement comment il est. Parce qu'à la fin, d'ailleurs, on voit cet homme repartir triste, refusant d'aller un pas plus loin, refusant de suivre Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe entre son arrivée, plein de questions, plein de zèle, plein d'enthousiasme au pied de Jésus, et son départ déchanté, triste, abattu? Un gagnant qui a perdu, un grand qui perd. En fait, Jésus lui montre qu'il est en train de se tromper sur l'essentiel. Quel est l'essentiel qui lui manque? Regardez les premières paroles de Jésus. Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. L'homme pose, comment je peux hériter la vie éternelle? Mais Jésus l'arrête et lui dit, comment peux-tu m'appeler bon? En fait, Jésus est déjà en train de lui montrer qu'il est à côté, qu'il se trompe de cible. Parce que, vous avez bien entendu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour mériter le ciel? Cet homme pense que c'est ce qu'il doit faire par ses œuvres, par ses exploits, qu'il va réussir à être accepté de Dieu. Pour ce que je fais, je mérite le salut. Pour lui, pour cet homme, il faut faire quelque chose, et quelque chose de bien, pour être bon aux yeux de Dieu. On voit comme la vie éternelle comme une récompense. Et cet homme semble exemplaire, hein. On ne voit rien de méchant chez cet homme. En plus, après, il interroge sur les commandements. Est-ce que tu as bien respecté ça, 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 ça? Et quand on regarde avec finement, il est question de, on sait, hein, il y a 10 commandements, les 10 que Moïse a laissés. Là, il y en a 6. On pourrait dire, et les commandements qui parlent des relations humaines. On voit que cet homme respecte les relations avec les autres, mais elles sont incomplètes. Parce que les 4 premiers concernent Dieu. Et notamment le premier, ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu. Alors c'est l'époque des dieux idoles, des dieux en bois, en sculpture. Mais pas seulement, et Jésus va montrer à cet homme son idole, son attachement, ce qui est plus important que Dieu. Parce que Jésus le fait en demandant, verset 21, « Il te manque quelque chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et alors tu auras le trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand on voit la réaction de cet homme, la réponse de cet homme, on voit que Jésus a pointé la faille de cet homme, l'argent. Jésus a vu où était son cœur. Cet homme avait de grands biens. Et c'est dans de grands biens qu'il a placé sa confiance. On le voit parce que il comprend pas la demande de Dieu, de Jésus, il veut pas perdre ce qu'il a, ce qu'il possède, plutôt il repart. Son argent, sa situation passe avant Dieu dans sa vie. Et quelque part, on pourrait dire même son argent passe avant la relation avec les autres. On disait tout à l'heure qu'il était bienveillant à l'égard des autres, mais Jésus lui dit « Vends pour donner aux autres ». Alors, réfléchissant à cet homme, on comprend peut-être ce que Jésus voulait dire quand il dit qu'il fallait accueillir le royaume comme un enfant. Quelle est la différence entre cet homme et les enfants? En fait, c'est précisément ce que chacun apporte. Cet homme pensait apporter ce qu'il avait déjà vécu, pensait gagner la vie éternelle grâce à ses bonnes actions, grâce à son argent, grâce à ses performances, grâce à sa bonté, sa bienveillance. Mais malheureusement, il n'a pas vu que toutes ces bonnes choses, que toutes les bonnes actions qu'il pouvait apporter devant Dieu ne suffiraient pas. En revanche, un enfant, un jeune enfant n'apporte rien. Alors, c'est pas un enfant innocent, bien évidemment, mais On sait, un enfant est totalement dépendant de ses enfants, de ses parents. Il a rien à apporter pour montrer sa valeur. Il fait pas partie encore de l'élite. C'est pourquoi Jésus appelle cet homme à perdre sa sécurité dans son argent pour qu'il puisse accueillir le royaume comme un enfant. Laisse tout ce que tu possèdes. Il faut tout perdre. Il faut tout perdre. Tout laisser pour hériter la vie éternelle. Ce sont ces perdants qui gagnent. Ce sont ces perdants qui gagnent. Ce sont les petits qui gagnent. Alors nous, ressemblons-nous plus à cet homme ou à un enfant? Comment accueillons-nous ce royaume? Sommes-nous en train de faire de bonnes choses, de belles choses pour plaire à Dieu, pour gagner la vie éternelle, en espérant qu'un jour Dieu nous accueille, en espérant que nos bonnes œuvres soient plus nombreuses que les mauvaises? Mes amis, si on prend ce texte, c'est ainsi qu'on va louper la cible fixée par Dieu. Personne n'est bon. On ne peut acheter le ciel ni par ses biens, ni par ses actes, ni par sa réussite, ni par sa foi pieuse. C'est difficile de recevoir quelque chose si on serre dans nos mains quelque chose qu'on n'a pas envie de lâcher. J'aimerais vous inviter à regarder le verset 21. Jésus voit cet homme, Jésus voit ses efforts. Et quelle réponse de Jésus? Ah, ça suffit, désolé, candidat suivant. Non, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Jésus l'aima. Jésus nous voit. Il nous voit tout ce qu'on fait. C'est grave, on rate la cible. Non, Jésus est là et nous aime. Et ça, c'est la motivation de Jésus. Il vient à sa rencontre, il a envie de toucher son cœur. Et on le voit dans sa tendresse, moi je trouve que c'est fort aussi, hein. Verset 16, il prie les enfants dans ses bras, je trouve que c'est extraordinaire. Le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu de l'univers qui nous connaît, il nous aime et nous prend dans ses bras. Il nous a ouvert la voie. Alors c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, Jésus nous aime. On doit l'accueillir comme un petit enfant. On ne doit pas venir avec notre propre justice, avec notre propre réussite. Alors c'est quelque chose qui est courant, c'est l'évangile, hein, c'est la bonne nouvelle. Sommes-nous comme cet homme riche, ou l'argent ou autre chose est notre point faible, ou sommes-nous comme ces enfants? Peut-être qu'on vous ne sentez pas concerné. Mais on voit quand même que Jésus continue, hein, dans les versets suivants, quand il va accentuer après le départ de cet homme. Pour Jésus, l'argent n'est pas un trésor, ni une protection, mais un piège. C'est un piège qui retient et qui nous empêche de le suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent a défini l'identité de cet homme. C'est rassurant d'avoir des biens. Ça garantit un confort, un avenir, peut-être ici-bas. Et ça devient notre maître. Notre loyauté, notre amour envers Dieu n'est pas total. En fait, Jésus est en train de dire que s'il y a même un petit, quel que soit le domaine dans nos vies où Dieu n'est pas le roi ou n'a pas toute autorité, notre capacité à le suivre est remise en question. Elle est où notre richesse? Il nous appelle à tout laisser pour tout gagner, pour gagner la vie éternelle. Je sais pas pour vous, hein, mais cet appel à tout laisser, pour tout gagner, c'est pas facile, c'est dur. Et je comprends cet homme qui est parti. Ça semble trop radical. Et dans la suite des versets, Jésus, il enfonce le clou, je trouve. Regardant autour de lui, versets 23 à 25, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau, alors on connaît cette image, hein, de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus nous sort l'image d'un chameau. Alors si vous connaissez pas un chameau, c'est ça, hein, ça a deux bosses. C'est vraiment deux bosses. Un riche, il est impossible. Alors on voit l'aiguille, la taille d'une aiguille, hein. Alors passer un petit poil peut-être. Et encore, quand on sait le fil, moi j'ai du mal. Et là, en plus, il y a deux bosses. Un riche, c'est impossible. Il y a vraiment l'impossibilité. Le royaume, la vie éternelle, n'est pas accessible à ceux qui se croient riches, à ceux qui se croient les gagnants dans cette vie. La vie éternelle est en revanche pour les perdants, les gens qui abandonnent tout. Et c'est pourquoi les disciples sont étonnés, sont même surpris, sont même effrayés, selon certaines traductions. Alors, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Et là, la phrase qui nous amène au troisième point, Jésus dit au verset 27, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Dieu rend l'impossible possible. Dieu rend l'impossible possible. Mes amis, c'est vrai, on ne peut pas se sauver. Le salut n'est pas accessible à l'homme. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est vrai qu'on a du mal à vouloir tout laisser, tout lâcher. C'est au-delà de nos capacités, c'est impossible. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire parce que c'est possible à Dieu. Dieu rend ce qui est impossible possible. Grâce à lui, les petits gagnent et les grands perdent. C'est pas notre démarche, c'est pas notre connaissance, c'est pas notre bonté, c'est pas nos moyens. C'est pas ce que l'on fait qui nous rend accessible à Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Donc si vous faites face à cet appel à Jésus à tout laisser, à tout perdre, à tout sacrifier, et que vous ne savez pas comment il faut faire, comment vous y arriverez, j'aimerais nous inviter à croire en ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui sait à un moment donné toucher notre cœur de façon à lâcher prise, à tout déposer. C'est pas une foi aveugle, c'est pas une foi sans fondement, c'est une foi qui s'appuie dans le Dieu de la Bible, le Dieu qui peut tout, dans le Dieu de la parole de Dieu, ce Jésus qui est tout puissant, qui fait l'impossible dans la vie des gens qui croient en lui. Et on l'a vu, ça fait plusieurs semaines qu'on parcourt Marc, on voit qu'il fait l'impossible. Jésus est tout puissant. À un homme qui luttait contre son incrédulité, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à ces gens parce qu'ils croient dans le Dieu à qui tout est possible. C'est lui qui touche nos cœurs. Cependant, au vu du prix que Jésus demande de tout perdre, de tout quitter, de tout abandonner, pourquoi voudrions-nous le faire? Pourquoi perdre notre sécurité sur terre? Jésus demande à cet homme de tout vendre et de tout laisser. Et si nous avons déjà fait ce grand saut, cet abandon à Dieu, que va-t-il nous arriver? Et c'est la question un peu que pose Pierre. Hein. Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il a besoin d'être rassuré, il se dit, nous on a tout lâché, qu'est-ce qui va nous arriver de notre lendemain? Et Jésus répond, je trouve avec beaucoup de force, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent. Dans le temps présent. Jésus est en train de rassurer. On quitte tout, mais on gagne tout. Si nous perdons tout en faisant confiance à Dieu, c'est gagné d'avance. C'est un investissement qui paye. Il y a un retour sur investissement dès à présent. C'est pas juste la vie éternelle qui nous attend, non, c'est dès à présent. C'est garanti, mieux qu'un compte en banque, que des actions chez Peugeot, chez Google ou Apple, ou que l'acclamation des foules d'une star. Dès à présent, et j'aimerais vous faire quelques exemples, dès à présent nous avons déjà tout gagné. Je sais que de temps en temps, lorsqu'une personne est malade, ou lorsqu'une jeune femme va donner naissance à un enfant, l'Église se mobilise souvent pour préparer des repas. Pour voilà, sur la semaine. On le fait entre nous. Je crois qu'on serait tous prêts à concocter un repas pour une personne, une famille. Si on avait une situation de crise, je pense que si l'un ou l'autre devait quitter son logement, je ne sais pas pour quelle raison, je suis sûr qu'on trouverait quelqu'un qui serait prêt à dépanner, à accueillir la personne. Parce que si on regarde autour de nous, voilà la maison, voilà les maisons qu'on a chacun. Voilà la famille que nous sommes. On est entouré de frères et de sœurs. Pour tous ceux qui ont reconnu, c'est une famille. Si vous appartenez à Christ, vous appartenez aujourd'hui à une belle famille. Une famille qui est plus forte que les liens du sang. Une famille ici sur Wittenheim. Mais pas seulement sur Wittenheim. Et je pense que si vous venez d'autres églises, de l'agglomération de Mulhouse ou n'importe, on a une famille qui est plus large. Vous pouvez voyager en France et vous pouvez vous sentir accueilli dans une autre église. Et rapidement, il y a une relation tellement forte. Alors que avec vos propres enfants ou avec votre propre parent, vous auriez pas autant d'affection, autant de... Ben là, je dis en France, mais on a des millions dans le monde où on a nos cœurs qui résonnent ensemble. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Au présent, voilà votre maison. Elle va de par les frontières des frères et des sœurs. La force des liens qui nous unit. Et bien sûr, là, j'ai pas parlé du meilleur, hein, que le texte relève, la vie éternelle. Notre héritage est dans le monde à venir. Une relation parfaite avec notre Créateur qui nous comblera de joie et de bonheur. Voilà le prix. Mais quel est le prix à payer? Jésus nous dit qu'il faut tout perdre. Renoncer à tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Alors je peux pas voir le cœur de chacun, Dieu peut. Je sais pas dans quelle forme précise ça doit prendre pour chacun. C'est à chacun de réfléchir dans sa relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu m'appelle à lâcher prise, à perdre pour tout gagner. Qu'est-ce qui me retient de suivre Jésus? Est-ce que j'ai sollicité son aide? Est-ce que je lui ai demandé? Est-ce que nous avons une question existentielle qui nous préoccupe? Ben, présentons-nous devant lui. Peut-être qu'on devrait être plus radical avec l'argent. Peut-être qu'on doit se contenter, malgré la promotion, de vivre sur son train de vie pour être plus généreux. Peut-être qu'on s'attache à une réputation, qu'on s'attache à une relation, des choses que tu aimes avoir le contrôle. C'est peut-être accepté, parce que ce texte nous dit aussi, il y aura aussi des persécutions. Vous aurez gagné des persécutions. C'est accepté d'être rejeté peut-être par la famille, à cause de votre appartenance à Jésus-Christ, à cause de ce choix de le suivre de façon radicale. C'est peut-être supporter les moqueries d'amis, de collègues, qui vous trouvent ridicule dans votre foi. Ce prix de tout laisser pour tout gagner peut être dur. Mais n'oublions pas que ces sacrifices que nous appelle Jésus-Christ sont rien en comparaison de la récompense qui nous attend. Et même si Jésus devait demander la même chose qu'à cet homme, laisse tout et suis-moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'ai changé en début de semaine avec les membres de la famille de notre sœur Marlise, avec des gens pas chrétiens du tout, alors ils voulaient savoir mon parcours. Et dès qu'ils ont compris que j'avais fait le choix de mettre de côté mon métier pour rejoindre le ministère, humainement, ils ont dit « mais c'est incompréhensible ». Mais ce que j'ai pu dire, c'est que je vais jamais manquer de ce que j'ai laissé, parce que j'ai tout gagné. Alors c'est vrai qu'humainement, c'est difficile. Mais voilà la parole de Dieu. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour suivre Jésus ?